Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la prise d'otage dans l'Airbus d'Air France à Alger. 24 décembre 1994, étrange Noël. La France va vivre 54 heures de suspense, de drame. Le regard rivé sur le sort des 227 passagers du vol Air France Alger-Paris, pris en otage par 4 terroristes du GIA, un groupe de fanatiques islamistes algériens qui avaient manifestement l'intention de précipiter l'avion sur un monument parisien, la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse. Bilan, 3 morts du côté des passagers, 4 chez les terroristes. À ce jour, cette délicate opération antiterroriste est considérée comme l'une des plus grandes réussites du GIGN. D'ailleurs, après cette mission, l'unité spéciale de gendarmerie recevra des compliments de nombreux autres groupes d'intervention, notamment des SAS britanniques, pourtant avares en la matière. Cette prise d'otage prouva également au reste du monde qu'il était possible de détourner, de prendre en otage un avion et surtout d'en faire une arme de destruction massive. On peut penser qu'elle a influencé le 11 septembre 2001. C'est cette histoire que nous allons vous faire revivre aujourd'hui avec le témoignage du magistrat chargé de l'enquête sur cette affaire. Son nom vous dira certainement quelque chose. Il s'agit du juge Jean-Louis Bruguière, spécialiste de la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui haut représentant de l'Europe auprès des États-Unis pour la lutte contre le terrorisme, précisément. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot, Maxime Anna.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
J'y pense tout le temps, et je revois tous les instants. Je revois la chose minute par minute.
Arrêtez ! Il y a deux Français au poste, ils sont tous morts. Arrêtez de tirer dans le poste, il reste deux Français vivants. Arrêtez !
Noël, c'est le jour de la joie, mais nous devons penser aux otages depuis hier sur l'aéroport d'Alger.
Dans l'aéroport Boumédienne d'Alger, l'ambiance était tendue. Un troisième otage, un Français, venait d'être exécuté.
Arrêtez !
La seule revendication qu'ils ont, c'est de pouvoir décoller.
Et c'est à ce moment-là, au milieu de la nuit, que le ministre de l'Intérieur est venu annoncer la nouvelle que l'on n'attendait pas. Les Algériens avaient décidé de laisser l'avion décoller.
Il faut maintenant sauver les équipages et les passagers.
La dernière balle que j'ai prise, la septième que j'ai prise dans la joue, c'est celle qui m'a extrait du cockpit.
Arrêtez de tirer dans le poste.
Le 26 décembre 1994, peu après 17h15, sur le tarmac de l'aéroport de Marignane à Marseille, les membres du GIGN, dirigés par le commandant Denis Favier, viennent d'entrer dans l'Airbus d'Air France Alger-Paris, vol 8969. C'est la fin de plus de 54 heures de huis clos et d'angoisse pour les 227 passagers et les 12 membres d'équipage. 54 heures à la merci de 4 terroristes algériens islamistes. C'est aussi la fin d'interminables discussions et de négociations entre les membres du gouvernement français, dirigé alors par Édouard Balladur, et les autorités algériennes qui refusent toute forme d'aide française sur leur sol. C'est la fin d'une incroyable journée pour les Français qui ont suivi en direct les dernières heures du détournement avec l'assaut et la libération des 173 passagers encore présents dans l'avion. Alors 20 ans après, que savons-nous de ce détournement? Quel était l'objectif de ces terroristes? Ont-ils bénéficié de complicité? Quelles étaient réellement leurs intentions?
Il faut maintenant sauver les équipages et les passagers.
Ce 24 décembre 1994, à l'aéroport Houari Boumédienne d'Alger, c'est le grand départ, avec un air de fête, celui des grandes occasions. Ce soir, en effet, les passagers du vol AF-8969 en direction de Paris retrouveront des proches, des amis, loin de la poudrière d'Alger. Vers 11h, Kenza, Ferhat et Yannick descendent de la navette pour embarquer à bord de l'Airbus situé en bout de piste. Claude, l'une des hôtesses, les accueille, les place, bon, rien que de très habituel. Avant l'arrivée des derniers passagers, le personnel des pistes monte à bord pour effectuer un contrôle d'identité. Rien d'étonnant, là non plus, quand on sait que 2 ans plus tôt, l'aéroport a été la cible d'un attentat à la bombe. Au loin, la navette transportant les derniers passagers est en route. Puis, soudain, elle s'arrête. La tour de contrôle vient de lui donner l'ordre de retourner au plus vite à la salle d'embarquement. Des terroristes viennent de prendre en otage le vol AF-89-69. Les quatre hommes qui s'étaient présentés comme membres du personnel des pistes étaient en réalité des membres du GIA. Il est 11h23, le drame commence. Pour les passagers, le pire vient d'arriver. Oui, le pire. Le GIA, groupe islamiste armé, fait la une des journaux en Algérie et en France. C'est l'une des organisations les plus radicales, opposée à tout dialogue avec les généraux algériens qui dirigent le pays depuis 1992. Leur dernier fait d'armes date du 3 août 1994, jour où trois gendarmes français et deux agents consulaires ont été assassinés. Cela fait bientôt une heure que la prise d'otage a débuté. Aucune information ne filtre en dehors de la tour de contrôle. Abderrahmane Mezian Chérif, ministre de l'Intérieur algérien, vient d'arriver sur place. Les terroristes veulent s'envoler vers Paris. Problème. La passerelle de l'embarcation est toujours attachée à la porte avant de l'Airbus. Dans ces conditions, impossible de décoller. Vers midi et demi, une silhouette s'approche de la porte avant, puis s'écroule sur les marches de la passerelle. C'est la première victime de la prise d'otage. Il s'agit d'un policier algérien. Quelques minutes plus tard, un deuxième homme, un diplomate vietnamien, est assassiné au même endroit. En France, aucune rédaction n'a encore l'information. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, et Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, demandent à leur service de rassembler le plus d'éléments possible sur cette prise d'otage. Côté algérien, les informations sont fragmentaires, mais rassurantes. Édouard Balladur reste donc pour l'instant à Chamonix, en vacances. Dans l'avion, la vie entre les terroristes et les passagers s'organise. La vie, si l'on peut dire. L'alcool et les cigarettes y sont proscrits. Les femmes doivent se couvrir. Certaines serviettes d'Air France sont utilisées comme voiles. Dans le cockpit, en compagnie du commandant de bord, Bernard Delhem, et de son copilote, Jean-Paul Borderie, le chef présumé des terroristes débute les négociations avec la tour de contrôle. Il est le seul à parler français. Les heures passent et des premiers passagers sont libérés.
Non, mais les petits pistolets, c'est automatique, c'est fait de ce qu'on a vu devant dans la classique. La première, ils sont 4 ou 5 grossettes. Ils ont des grenades, et ils ont des espèces, ils ont de la dynamite. Et pour l'instant, ils sont calmes. Pour l'instant, il n'y a pas de panique, ni rien du tout. Mais jusqu'à quand ça va durer, c'est pas, on sait pas.
Grâce à ces premiers témoignages, la police algérienne commence à récolter quelques informations. Les terroristes sont au nombre de 4, armés de fusils d'assaut Kalachnikov, de pistolets automatiques, de grenades. Très vite, les policiers parviennent à identifier les 4 individus. Le chef, Abdul Abdallah Yahia, il est âgé de 26 ans, bien connu des services de police. Mustafa Chekien et Mahlouf Benguetaf, eux, ont 25 ans. Salim Layadi, le plus jeune, vient de fêter ses 20 ans. Ils sont tous nés à Alger. C'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Ce sera la dernière.
والبقالة ديال بويا بكلام عبقري والبقالة ديال بويا بكلام عبقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة
Hey, mama.
France, la pression monte. Au cœur des ministères, deux visions s'opposent. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, souhaite que l'avion décolle et atterrisse rapidement sur le sol français pour pouvoir gérer le sort de ses ressortissants. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, lui, préconise de laisser les Algériens gérer leurs affaires. C'est que, entre ces deux hommes, ce sont en fait deux camps, voire deux clans politiques qui s'affrontent. Dans moins de 6 mois, en effet, le successeur de François Mitterrand à la tête du pays sera élu. À droite, c'est la guerre des chefs entre Jacques Chirac et le Premier ministre, Édouard Balladur. Charles Pasqua a apporté son soutien au Premier ministre et pense, sans doute, qu'il serait préjudiciable au futur candidat Balladur qu'un drame se déroule sur le sol français. Alors, par mesure de précaution, Édouard Balladur, de retour en urgence de Chamonix, fait le choix d'envoyer une équipe du GIGN à Majorque, en Espagne, où un Airbus du même type que celui qui a été détourné a été mis à disposition pour imaginer, en cas de besoin, un assaut.
Comment le commando a-t-il pu pénétrer dans l'avion ?
Arrêtez de tirer dans le poste !
La nuit tombe sur l'aéroport d'Alger. Cela fait bientôt 9 heures que les passagers du vol AF-8969 sont enfermés avec les 4 terroristes. Le problème de la passerelle n'est toujours pas résolu. Les terroristes demandent à l'un des passagers de descendre pour déplacer le véhicule où est attachée justement la passerelle. C'est un échec. Le véhicule est un engin spécifique retenu au sol par des vérins mécaniques. Alors un second passager, ancien employé Orly, propose ses services pour déplacer cette passerelle. Mais après quelques minutes, l'homme ne remonte pas. Il en profite pour s'enfuir. Les terroristes sont dans une impasse. La pression est de plus en plus forte. Pendant ce temps, à Paris, toutes les chaînes de télévision, toutes les radios suivent le détournement, heure par heure. C'est un avant-goût de ce que sera plus tard le règne des médias d'info continue, pour les meilleurs et pour le pire.
L'incident a commencé à 11h locale quand 4 hommes armés, vêtus d'uniformes du personnel de piste, sont descendus d'une voiture au pied de l'avion d'Air France où 273 passagers venaient d'embarquer.
Nous sommes en train de faire l'impossible pour les ramener à la raison, pour les dissuader, se rendre. Et je pense que les heures à venir nous permettraient d'arriver à ce résultat.
Cela fait donc 8 heures que les passagers, en majorité des Algériens, et les 12 membres de l'équipage sont pris en otage dans un avion immobilisé à quelques 500 mètres de la salle d'embarquement de l'aéroport d'Alger. Depuis, les 4 hommes armés ont libéré à 3 reprises 42 passagers au total.
La seule revendication qu'ils ont, c'est de pouvoir décoller. Nous sommes en relation avec nos collègues en France pour les rassurer et leur expliquer de la manière la plus vraie la situation que nous vivons nous-mêmes à Alger.
29 femmes, 7 enfants et 6 hommes ont donc réussi à sortir de l'avion sous contrôle des pirates de l'air dont on ignore encore l'identité et le mobile.
Matignon demande désormais que les choses s'accélèrent. Édouard Balladur propose aux autorités algériennes les services du GIGN. Le refus est catégorique. Aucune présence des hommes du GIGN sur le sol algérien ne sera acceptée. Vers minuit, le Premier ministre tranche en faveur d'Alain Juppé. Il annonce dans un communiqué que la France propose au gouvernement algérien d'accueillir l'avion sur le sol français. Second refus des autorités algériennes, qui pensent en fait avoir une dernière carte qui pourrait débloquer définitivement l'affaire. Par l'intermédiaire de la radio de la tour de contrôle, des paroles en arabe d'une femme résonnent dans le cockpit. Cette femme, c'est la mère du chef présumé du commando Yahya Abdallah.
Yahya, mon fils, je t'en supplie. Yahya, mon fils, je vais en mourir si tu continues. Yahya, tu vas me tuer, Yahya. Yahya.
C'est un échec. Le commando est déterminé, il ira jusqu'au bout.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Louis Bruyère, juge antiterroriste, chargé de l'enquête sur la prise d'otage de l'avion d'Air France Alger-Paris de décembre 1994. Le 25 décembre 1994, il est 8h45, quand à Alger, des petits déjeuners sont livrés au pied de l'avion. Claude Berthaud, l'une des hôtesses de l'air, est chargée d'aller chercher le plateau repas. Elle enjambe les corps du policier et du diplomate qui gisent en haut de la passerelle depuis plus de 12 heures. Édouard Balladur, lui, poursuit ses discussions avec les autorités algériennes. Il accentue la pression. Pour les Français, en ce jour de Noël, c'est l'attente, une attente insupportable, car aucune évolution positive n'est constatée pendant toute la journée. Ce n'est qu'en début de soirée que tout s'accélère. Les familles françaises et algériennes des passagers sont de plus en plus inquiètes pour leurs proches, coincés à l'intérieur de l'avion. On le serait à moins. C'est le cas de Catherine Beunier, arrivée d'Alger le 22 décembre. Son mari, Yannick, cuisinier à l'ambassade, est à bord de l'avion. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'il est désormais dans le cockpit avec les terroristes.
Je m'appelle Yannick Beunier, je travaille à l'ambassade de France et notre vie est en danger maintenant. Si vous faites rien, ils vont nous exécuter. Il faut absolument faire quelque chose le plus rapidement possible.
Mais les négociations avec les autorités algériennes ont échoué. Les terroristes ne veulent plus discuter. Un ultimatum est lancé, brutal, anxiogène, comme tous les ultimatums. Si à 21h30, l'avion n'a pas décollé, les terroristes tueront un otage français. Et cet otage, c'est Yannick. À 21h31, il s'écroule, une balle dans la nuque. C'est la troisième victime de cette prise d'otage. Yannick Beunier avait 28 ans. À Matignon, le ton monte. Édouard Balladur annonce qu'il refuse le chantage de l'État algérien. Il lance un avertissement sans précédent à leurs dirigeants, leur indiquant qu'il les tient pour responsables de la vie des Français qui sont dans cet avion et qu'il prendra la communauté internationale à témoin du comportement du gouvernement algérien qui aurait empêché la France de sauvegarder la vie de ses ressortissants. L'argument fait mouche. Le 26 décembre, à 2h20, l'avion quitte le sol algérien.
Dans l'aéroport Boumédienne d'Alger, l'ambiance était tendue. Un troisième otage, un Français, venait d'être exécuté. Les policiers étaient nerveux. Des rumeurs circulaient sur un éventuel assaut imminent. Et c'est à ce moment-là, au milieu de la nuit, que le ministre de l'Intérieur est venu annoncer la nouvelle que l'on n'attendait pas. Les Algériens avaient décidé de laisser l'avion décoller. Une décision, a dit le ministre, prise en étroite collaboration avec les autorités françaises. On peut comprendre une décision prise après que la France ait exercé de très fortes pressions. Nous regrettons, a dit le ministre Mézian Chérif, que la crise n'ait pas pu se résoudre sur le sol algérien. Et comme pour justifier cet échec, il s'est livré à une très surprenante mise en cause du commandant de bord français de l'Airbus. Le pilote d'Air France a été accusé de s'être montré trop souple avec les pirates, de ne pas avoir obéi aux autorités et d'avoir fait échouer une négociation qui aurait dû mener à la libération de tous les otages. Le ministre algérien n'a pas voulu en dire plus. Il s'est contenté de ces accusations qui ont surpris les gendarmes français qui participaient aux négociations depuis 36 heures. En tout cas, une fois la décision annoncée, tout est allé vite. Les lumières se sont rallumées à l'intérieur de l'Airbus. Très lentement, il s'est dirigé vers la piste et à 2h, il décollait vers la France.
Ce que les flashs d'infos ne disent pas, c'est que quelques minutes avant l'arrivée du vol Air France 8969, un autre avion atterrit discrètement sur le tarmac de l'aéroport marseillais avec à l'intérieur l'équipe du GIGN qui vient d'arriver de Majorque où elle était positionnée. À Marseille, les négociations se déroulent désormais entre Abdoul Abdelaya et le préfet de police de Marseille, Alain Géhin. À côté de lui, à l'intérieur de la tour de contrôle, sont présents le préfet de région, Hubert Blanc, et le président d'Air France, Christian Blanc. La revendication des terroristes est claire. Ils veulent rejoindre Paris au plus vite pour tenir une conférence de presse. Oui, mais sans kérosène, impossible de décoller.
Je n'arriverai pas à convaincre qui que ce soit de porter un camion où tout le monde a un peu peur. Moi, j'ai vraiment une difficulté là. Et je ne vais pas pouvoir obliger un chauffeur à vous mettre un camion même à 300 mètres de l'appareil.
Tu m'entends, monsieur le préfet?
Oui, je vous écoute.
Vous avez une heure et demie pour que le décollage à Paris. Il est 8h10. Jusqu'à 9h40. Si le départ part, nous avons des choses à faire. Hein.
À Matignon, Édouard Balladur a décidé qu'en aucune manière l'avion devra quitter Marseille. Dans la matinée, il fait le choix de l'assaut. Il faut désormais attendre que l'équipe du GIGN choisisse le moment opportun. En attendant, toutes les équipes de télévision et de radio sont sur place, en direct, pour suivre, minute par minute, tous les événements. LCI, la seule chaîne d'information française à l'époque, a les caméras les mieux placées. Et on peut voir l'avion, de trois quarts. L'avant de l'appareil est au premier plan et on peut voir distinctement la porte avant d'Airbus.
Il faut maintenant sauver les équipages et les passagers.
Vers 15h45, l'avion se déplace et se dirige droit vers la tour de contrôle. Puis, il s'arrête. Le contact avec les terroristes se limite désormais à des prières et des versets du Coran récités. Le dénouement est proche. Une porte s'entrouvre. Des coups sont tirés en direction de la tour de contrôle. Denis Favier, chef du GIGN, place ses éléments. Des snipers sont positionnés pour avoir un visuel sur le cockpit. À 17h12, l'assaut est donné. Trois véhicules munis de passerelles s'élancent vers l'appareil, deux vers l'arrière, l'autre à l'avant. Ils essuient les premiers tirs. Deux hommes sont chargés d'ouvrir les portes. Puis le commando du GIGN fait irruption dans l'appareil. Quand l'équipe de l'avant entre, les quatre terroristes sont rassemblés vers le cockpit. Puis, c'est l'échange de tirs. Explosion à l'intérieur du cockpit, où trois hommes du personnel sont encore prisonniers. Jean-Paul Bordery, le copilote, profite alors de ces premiers échanges pour s'extraire du cockpit, par une fenêtre. Il chute lourdement et arrive à se déplacer, malgré une fracture du coccyx. Les autres sont à l'intérieur. Et c'est le commandant de bord qui annonce la mort des terroristes.
Arrêtez! Il y a deux Français au poste, ils sont tous morts. Arrêtez de tirer dans le poste. Il reste deux Français vivants. On est Français! Qu'est-ce qui se passe dans le
À 17h29, le commando a tué les quatre terroristes. L'ensemble des passagers et du personnel est sauvé. Aucun membre du GIGN n'a été tué. La libération est vécue en direct par des millions de téléspectateurs. L'assaut du GIGN fera le tour du monde. C'est la délivrance pour les 173 passagers et pour l'équipage.
L'opération consistait à faire crasher l'avion sur Paris avec l'ensemble des passagers. Et cette intervention nous a tous sauvé la vie. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont fait que nous soyons encore en vie.
Le lendemain, c'est la célébration des nouveaux héros. François Mitterrand reçoit l'équipe du GIGN à l'Élysée, ainsi que les membres de l'équipage. Au même moment, le Premier ministre, candidat probable à l'élection présidentielle, et son ministre de l'Intérieur qui le soutient, Charles Pasqua, tiennent une conférence de presse à l'aéroport de Marseille. 54 heures d'angoisse pour les passagers et pour leurs proches, et une victoire politique pour Édouard Balladur, qui déjà à l'époque marche sur l'eau, pendant que son rival Jacques Chirac, lui, se morfond dans le marécage de sa défaite annoncée à la présidentielle. Alors, c'est avec une satisfaction à peine cachée et avec cette onctuosité cardinaliste qui fait son style que le Premier ministre Édouard Balladur explique à la presse comment il a géré toute cette affaire.
Il y a eu deux décisions importantes à prendre, enfin, de mon point de vue. La première, c'est d'accueillir sur le sol français l'avion d'Air France. Non pas de l'accueillir, de réclamer qu'il y retourne. Parce que nous avions le sentiment que c'était la seule façon d'assurer le mieux possible la protection des otages. Ensuite, l'avion a atterri à Marignane et là, c'est le préfet de région et le préfet de police qui ont eu à conduire l'opération et à la diriger. Et il est rapidement apparu que les risques étaient tels qu'il n'y avait pas d'autre solution pour éviter le pire de donner l'assaut. C'est donc ce que j'ai décidé sur la proposition du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ce que j'ai décidé au début de la matinée d'hier, lundi. Voilà.
Le 27 décembre, Charles Pasqua déclare que l'objectif des terroristes était une opération suicide sur Paris. Cette thèse, effrayante, fascinante, sera confirmée par Omar Chiqui, un ancien membre du GIA, et par les autorités algériennes.
Nous avions reçu deux informations directement, notamment une émanant d'un correspondant anonyme qui avait fait connaître à notre consulat général d'Oran qu'en réalité l'objectif des terroristes était une opération suicide sur Paris avec cet avion. Ceci n'a pu que nous renforcer dans l'idée de ne pas procéder au ravitaillement éventuellement en kérosène et à les empêcher de quitter l'aéroport. Donc toute disposition est de toute façon prise pour empêcher le départ de l'avion de l'aéroport. Et à ce moment-là, il a été convenu que l'intervention se ferait à la nuit tombée, sauf si des coups de feu étaient tirés, ce qui devait entraîner une intervention immédiate.
Six mois plus tard, le 11 juillet 1995, une vague d'attentats attribués aux islamistes algériens commence à endeuiller la France. Elle culminera le 25 juillet par l'explosion d'une bombe au métro Saint-Michel, faisant 7 morts et 84 blessés. 20 ans après ces faits dramatiques, les autorités algériennes n'ont jamais laissé la justice française enquêter sur l'affaire. Le 30 décembre 1994, le magistrat antiterroriste français Jean-Louis Bruguière, à qui nous allons donner la parole dans quelques minutes, avait transmis à Alger une commission rogatoire internationale pour laquelle il n'a jamais eu de réponse. Le magistrat lui-même attendra presque 5 ans pour entendre certains témoins, dont la veuve de la victime française, Catherine Beunier, qui fera état d'une étrange note de l'ambassade de France. Une note qui déconseillait à ses employés de voyager sur la ligne Alger-Paris au moment de Noël. Comment les terroristes ont-ils pu si facilement prendre en otage un Airbus à l'aéroport d'Alger, qui était tout de même l'un des plus surveillés du monde? Quels étaient leurs complices? Avaient-ils des complices? Autant de questions que nous allons poser à Jean-Louis Bruguière.
But I have never.
Jean-Louis Bruguière, merci tout d'abord d'être avec nous pour ce numéro d'Affaires Sensibles sur France Inter. Vous avez écrit en 2010 chez Robert Laffont un livre intitulé « Ce que je n'ai pas pu dire », sous-titré, parce que souvent les sous-titres sont aussi importants que les titres, « 30 ans de lutte contre le terrorisme », c'est un livre d'entretien avec Jean-Marie Ponto. Vous revenez justement sur cette affaire de prise d'otage des passagers et des membres d'équipage de l'Airbus d'Air France en cette fin d'année 94. Rappelez-nous d'abord ce qu'était le GIA et ce que voulaient ces terroristes du GIA réellement.
Je crois que la question, elle est importante, parce que le groupe islamique armé n'est autre qu'un groupe radical salafiste se revendiquant de l'idéologie d'Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas d'Al-Qaïda à l'époque, mais le GIA, contrairement au Front islamique du salut, le FIS, avait un agenda donc djihadiste avéré et cherchait non pas à prendre le pouvoir en Algérie, mais à instaurer un califat mondial, d'abord en Algérie et ensuite en France, d'où sa stratégie d'exporter rapidement la violence en dehors du territoire algérien et contre le premier pays qui lui considérait comme étant l'ennemi principal, car le premier soutien du gouvernement apostat, koufar comme on dit en arabe, qui était le gouvernement algérien. Donc c'est dès 1993 que le GIA va décider d'attaquer des ressortissants français, en enlevant des ressortissants français des géomètres en Algérie. Et puis ensuite, il y aura bien sûr ce que vous avez rappelé, des attaques contre des ressortissants français en Algérie au mois d'août. Et surtout la principale, bien sûr, opération qui est celle contre l'Airbus.
Alors vous dites dans votre livre que ces terroristes-là ne ressemblent pas à ce que furent par exemple les terroristes palestiniens qui eux étaient très politiques. Là, il y a un discours de haine, une sorte de haine basique contre la France qui prend ses racines jusque dans la guerre d'Algérie, 30 ans avant.
Alors je crois que c'est très compliqué parce qu'il y a le contexte, il y a d'abord le contexte algéro-français, le contexte algérien, plus le problème du groupe islamique armé. Ce groupe islamique armé, il faut quand même rappeler à ceux qui probablement ne le savent peut-être pas, que le GIA, sous toutes ses formes, GIA, GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui a suivi le groupe islamique armé, plus l'ensemble des organisations, le FIDE, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des sigles, qui ont combattu le gouvernement algérien et les autorités algériennes, ont fait presque 200 000 morts en Algérie entre 91-92 et 98. Donc ça a été des exactions extrêmement sanglantes, notamment pendant la période du Ramadan. Et alors, il y a eu bien sûr l'aile la plus radicale qui va finir par prendre le dessus, qui est l'aigle salafiste, qui est l'aile Al-Qaïda, si on peut dire aujourd'hui, a pris le dessus sur toutes les autres. Elle deviendra le groupe salafiste pour la prédication et le combat donc en 96-97. Et finalement, à partir de 2007-2008, ça va être la fameuse ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, vous voyez, il y a une continuité.
Une filiation.
Entre une filiation totale, je dirais même plus qu'une filiation, une continuité donc organisationnelle, organique, et également au niveau, bien sûr, des cibles et l'idéologie, qui est une idéologie profondément salafiste radical et exportation du djihad à l'extérieur du territoire algérien, en Algérie bien sûr, mais même à l'extérieur, et en France en particulier.
Alors justement, avec cette opération, vous dites peut-être l'une des plus spectaculaires et audacieuses de ce groupe-là, donc en décembre 1994, la prise en otage des passagers de l'avion d'Air France Alger-Paris, on va revenir sur certains points, et notamment cette déclaration de la veuve de Yannick Beugnier, le cuisinier de l'ambassade assassiné par les terroristes. On va l'écouter ensemble, on en parle juste après.
Quand j'arrive à l'aéroport, donc j'enregistre mes bagages, et puis il y avait cette fameuse personne que je connaissais parce que je le voyais souvent. C'est un employé qui travaillait à l'aéroport, et puis il me dit « Mais où est votre mari ?» Alors je dis « Ben mon mari prendra l'avion après-demain, lui. » Et c'est là qu'il a tiqué, il m'a dit « Ah bon, pourquoi après-demain ? Mais pourquoi il ne vient pas avec vous ? Et pourquoi il ne vient pas demain ?» Je lui ai expliqué, il ne peut pas pour raison professionnelle. Il me dit, mais qu'il vienne demain, même s'il faut le faire mettre dans le cockpit, je le ferai monter dans l'avion. Il a vraiment insisté.
Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une simple précaution liée à la situation politique en Algérie, avec la France en ligne de mire chez les islamistes ou autres ? Comment vous traduisez cette mise en garde ?
Écoutez, c'est très difficile de le dire parce qu'il est évident qu'avec le recul du temps, toutes les hypothèses et les supputations sont autorisées. Et je comprends fort bien que vous posiez la question, que d'autres se la posent. Moi, je n'ai pas de réponse formelle. ce que je peux dire simplement, c'est qu'il faut se replacer à l'époque de 1994-1996. Ce sont les époques noires en Algérie. C'est l'époque où, moi, j'ai été à Alger dans le cadre d'exécutions de commissions d'attentats plus tardives que cela, où les autorités algériennes me disaient, à Médéa par exemple, on n'osait même pas le matin aller traverser la rue pour chercher du pain chez le boulanger parce qu'on avait une chance sur deux de ne pas revenir. On était dans un climat de terreur, et à Alger en particulier, je veux dire, rien n'était sûr. Il y avait des faux barrages partout. Les gens du GIA ou les autres organisations étaient extrêmement présentes, surtout dans le quartier de l'Arrache et aussi près de l'aéroport. Donc il y avait une vraie psychose justifiée par un climat qui était quand même extrêmement lourd et où le GIA était quand même tout puissant à l'époque, malheureusement. Et ce n'est que par la suite que les Algériens vont pouvoir donc redresser et éliminer, et quasiment éradiquer donc cette organisation qui aujourd'hui est embryonnaire. Donc 94, c'est pas 2014. Et peut-être que cette personne avait des informations, ou peut-être qu'elle avait entendu des rumeurs, ou alors le climat étant tel, elle avait des inquiétudes. Les porosités existaient bien évidemment, parce que dans cette affaire, il n'a pas pu ne pas y avoir des complicités évidentes au sein de l'aéroport.
Mais de qui ? Alors de qui justement les complicités ? Écoutez, parce que les terroristes ont monté sans armes, ils ont trouvé des armes dans l'avion. Donc il y a complicité.
Non, mais des complicités, il y en avait. Si vous voulez, dans ce type de climat, c'est comme aujourd'hui, si vous me parliez de l'Irak ou de la Syrie, vous comprenez, ou de Boko Haram dans le nord du Nigeria. Il est évident que Boko Haram dispose de complicités importantes, comme le GIA a dû en disposer au sein de, probablement, de l'administration, soit des gens qui ont été retournés, soit même des individus qui travaillaient, mais qui déjà avaient des convictions politiques ou islamistes qui faisaient qu'ils renseignaient ou ils étaient à même de fournir des renseignements et d'aider sur un plan purement logistique donc un commando de ce genre. S'il y avait une étanchéité absolue, il est évident que l'opération n'aurait pas pu se réaliser. Mais à l'époque, c'était extrêmement difficile compte tenu du rapport de force qui existait et de la montée en puissance du groupe des groupes, parce qu'on parle du GIA, en fait, il y avait des groupes.
C'est une nébuleuse.
Non, ce n'est pas une nébuleuse.
Pourquoi ?
Ce n'est pas une nébuleuse parce qu'il y avait Jamel Zitouni ou d'autres en Transbobri qui étaient les chefs. Mais il y avait, dans chaque région, il y avait des commandements régionaux, entre guillemets, qui existaient. Et donc, il y avait des unités combattantes. Aujourd'hui, on parle de Katiba, mais à l'époque, c'était des régions, carrément des régions militaires. Il faut dire que le GIA avait instauré la France comme une des régions militaires, donc comme un territoire de lutte dans lequel elle avait implanté ses propres réseaux. Et ça va vous donner, en 1995, une des opérations qui sera les attentats que vous avez évoqués.
Saint-Michel,
entre juin et le 1er novembre, date de l'arrestation de Boualem Ben Saïd et de son colistier, donc avec Tali Belkacem.
Alors on va écouter, entre autres, Jean-Louis Bruyère, on va écouter un deuxième document troublant, lui aussi. Vous allez entendre la voix de Omar Chiki, que j'ai évoqué tout à l'heure dans la narration. C'est l'un des 9 membres fondateurs du GIA. Sa déclaration date de 2002, c'est important de préciser, soit 8 ans après les faits.
L'affaire de l'Airbus français, qui a eu lieu à la fin de l'année 1994, avait été planifié depuis longtemps par des membres du groupe islamique armé. À leur tête, il y avait Jamel Zitouni, Abdullah Krandfel et Yahya. Ces 3 personnes sont les instigateurs du détournement de l'avion. L'objectif de ce détournement était de faire passer le message du groupe islamique armé en France. En effet, le GIA pensait que la France apportait un soutien total au régime algérien. Bref, pour le GIA, l'Algérie, c'était la France. Il s'agissait donc de pousser la France à cesser de soutenir le pouvoir et le régime algérien. Au départ, il était prévu de faire monter 10 hommes à bord de l'avion. Mais par manque de temps et par crainte de voir les services de sécurité algériens déjouer l'opération, il a été finalement décidé de ramener le nombre de personnes à 4.
Voilà, est-ce que cela corrobore vos recherches, vos investigations, ce que nous venons d'entendre ?
Oui, vous savez, c'est pas la première fois que j'entends la déclaration de Omar Sy.
J'imagine, oui. Mais les auditeurs probablement, un certain nombre d'entre eux.
Oui. Alors, oui, je dis oui. Alors, ce que nous avons pu savoir par l'enquête, parce que j'ai été chargé de cette enquête, et notamment un certain nombre d'investigations ont été faites ensuite, non pas en Algérie, comme vous avez remarqué, à l'époque, c'était impossible, du fait de l'hypersensibilité de cette affaire et la susceptibilité algérienne. Donc, on n'a pas pu, mais j'ai pu conduire une enquête très intéressante en Grande-Bretagne. Vous allez dire pourquoi Grande-Bretagne ?
Parce que, j'allais vous le dire.
À l'époque, l'ensemble de la mouvance politique salafiste radicale qu'on dirait aujourd'hui Al-Qaïda était à Londres et où elle ne faisait pas l'objet, malheureusement, à l'époque, de poursuites fortement contrôlées par les services britanniques, mais finalement qui laissaient faire. Et du reste, je vous rappelle, c'est à partir de Londres, qu'on a surtout appelé à un moment donné le Londonistan, que s'est organisé les fameuses filières afghanes qui partaient de l'Europe et d'en France en particulier, et toutes les raisons, on ne pouvait pas aller en Afghanistan si on ne passait pas par deux points importants qui étaient Londres et Islamabad, ou Lahore. Et après, on passait par Peshawar et on filait sur Jalalabad, donc, ou Kaboul. Mmh. Voilà, c'était la route. Et donc, à l'époque, il y avait, bon, un temps récent du reste, des personnages importants comme Abou Qatada, entre autres, pas tous les cités. Il n'est pas inintéressant de rappeler qu'à la même époque, 1994, un an après l'attentat contre le World Trade Center, premier attentat
donc,
aux États-Unis à New York, qui était le fait de la Jamaa Islamiya algérienne, je veux dire égyptienne, laquelle était aussi très liée idéologiquement au GIA, il y avait un personnage qui faisait l'aller-retour assez fréquemment entre l'Égypte et Londres, c'était un certain Ayman el-Zouahiri, vous voyez, qui aujourd'hui a pris un certain nombre du galon, puisqu'il a succédé donc, à Osama Bin Laden, et il est le chef donc d'Al-Qaïda actuellement. Donc vous voyez, les choses, comme vous dites, l'histoire éclaire l'actualité,
oui.
Car y a pas, on est dans une évolution, il n'y a pas d'accident historique, tout ça, veux dire, est la résultante d'une évolution très compliquée qui peut être, quelquefois, elle a été mal anticipée ou mal analysée.
Est-ce que vous dites vous-même, l'histoire éclaire l'actualité, c'est exactement la ligne éditoriale de cette émission, Jean-Louis Bruguière. Alors l'autre principe de cette émission, pour se remettre dans l'atmosphère de l'histoire, de l'époque dans laquelle s'inscrit l'histoire dont on parle, eh bien, c'est d'écouter l'une des chansons qu'on entendait à l'époque, 1994, en l'occurrence Alain Bashung, « Ma petite entreprise ».
Ma petite entreprise que n'est pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. L'oreille de ses lèvres. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Je perds le nord, qu'importe. Quand je vois se poindre les pyramides, néanés, mes lubies. Là, j'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise. Je connais pas la crise, épanouie et l'exhibe, les trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
Alors Jean-Louis Bruguière, l'attentat suicide, ça c'est quand même quelque chose qui reste fascinant. Est-ce que ces terroristes avaient, oui ou non, l'intention de précipiter l'avion sur la tour Eiffel?
Alors, je peux dire, alors, pas à 100%, mais probablement et très fortement, oui, pourquoi? Outre les déclarations d'Omar Chiqui et les informations qui ont été recueillies par nos services et dont on a fait état, donc Charles Pasqua, vous l'avez rappelé, sur le fait que l'avion devait être utilisé pour la première fois comme une arme de destruction massive, 7 ans avant le 11 septembre. Pas l'oublier, là aussi, les leçons de l'histoire. Important, bon, avec les enjeux que cela peut avoir. Mais lors de perquisitions qu'on a pu faire à Londres par Scotland Yard, mais dans le cadre d'une entraide judiciaire internationale, on a trouvé dans des locaux clandestins du GIA, qui étaient donc par des individus qui étaient proches de Jamel Zitouni, qui était le chef du GIA, et donc on dit avec Kromfeld, donc on connaît bien, c'est-à-dire Claude Girolf en arabe, qui était un individu dont on a pensé qu'il était aussi impliqué dans les attentats de 95. Donc c'était une tête pensante du GIA, mais Jamel Zitouni en était incontestablement le chef. On a trouvé une documentation qui permet de penser, d'établir que la cible, c'était bien la Tour Eiffel.
Donc Paris est passé, et la France, hein, en 1994, à côté d'une catastrophe majeure. Alors on ne va pas faire de l'histoire fiction, mais si les terroristes avaient mis leur menace à exécution, avaient réussi sur Paris, il n'y aurait peut-être pas eu de 11 septembre, ensuite à New York, parce que le danger d'un avion comme arme de destruction massive aurait été identifié pour le coup.
Je ne suis pas certain, malheureusement. Donc, mon expérience professionnelle de longues années, et notamment les relations que j'ai eues très confiantes avec les grands partenaires britanniques, européens et surtout américains, les États-Unis, même si ce drame s'était passé, heureusement qu'on l'a évité, et pu servir de leçon et éviter le deuxième, beaucoup plus important, que fut le 11 septembre. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué, malheureusement, je pense que c'est encore le cas, que ce n'est que lorsqu'on est personnellement touché par un désastre que l'on réagit. Et je vous donnerai un exemple, moi qui m'a un peu, puisqu'à l'époque j'étais en plein milieu de tout ça, 2004-2005, 2004, les attentats de Madrid, 200 morts.
Oui.
Donc, quel était l'écho médiatique en France ?
Important.
Pas à la hauteur du drame.
Certainement, non, certainement. Important, mais certainement pas à la hauteur du drame.
Voilà, 200 morts. Mmh. Ben, c'est l'attentat le plus meurtrier. Londres, on en a parlé pendant 2 jours, 3 jours, pas plus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Mais pourquoi, vous dites-vous ça? Je vois ce que vous dites.
Mais je dis ça parce que incontestablement, vous me parlez de ça parce que c'est un problème. Vous me dites, si ce drame s'était produit, il n'y aurait pas eu le 11 septembre. Je vous ai dit non, parce que la résonance, je veux dire, au niveau de l'opinion publique américaine, et donc derrière des médias, et les médias, donc les gouvernants successifs, n'auraient pas permis de prendre la mesure de la menace et donc de mettre en mouvement des actions préventives qui étaient de nature à éviter ce drame.
Voilà.
Il a fallu le 11 septembre et les Américains ont réagi très violemment, peut-être beaucoup trop, parce que on pourra en parler plus tard avec l'Irak. Mais voilà, je veux dire, et sans violer des secrets, je peux vous dire que très peu de temps avant le 11 septembre, j'étais en contact avec nos amis américains et que c'était extrêmement compliqué et difficile de les convaincre de ce que Al-Qaïda était une menace majeure.
Voilà. Oui. Merci en tout cas Jean-Louis Bruguière pour ce témoignage, pour ces éclairages. Je rappelle le titre de votre livre, hein, publié chez Robert Laffont, « Ce que je n'ai pas pu dire », sous-titré « 30 ans de lutte contre le terrorisme », livre d'entretien avec Jean-Marie Ponto. Et moi je vous remercie pour ce que vous avez dit là, en l'occurrence sur France Inter. Merci, au revoir.
Ouais.
C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la prise d'otage dans l'Airbus d'Air France à Alger en 1994. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. J'en profite pour vous rappeler le titre du livre écrit par Jean-Louis Bruguière, 30 ans de lutte contre le terrorisme, sous-titré « Ce que je n'ai pas pu dire ». C'est un livre d'entretien avec Jean-Marie Ponto. Demain, la fiction, elle sera consacrée à une grande dame, Germaine Tillion.